L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui vendredi 7 mai et je suis évidemment avec plaisir en compagnie de Claire. Salut Claire.
Et oui, salut Marie, salut tout le monde. Et vous savez pas quoi, le 7 mai c'est la Sainte Gisèle et le proverbe c'est « À la Sainte Gisèle, prends garde s'il gèle ». Voilà. Donc
petit conseil pour tous les jardiniers. Qu'est-ce qu'on fait d'un tel dicton lorsqu'il ne gèle pas? Du coup, tout va bien en fait, finalement. Oui, c'est ça la conclusion.
C'est juste au cas où, il faut se dire « Ah oui, c'est la Sainte Gisèle, c'est pour ça ».
Oui, voilà, à la limite, embrasser plutôt toutes les Gisèles dans ces cas-là, grâce à ce dicton. Merci Claire. En tout cas, au sommaire de cette émission, hormis la fête des Gisèles, on va parler de la nouvelle marche pour le climat qui a lieu ce dimanche un peu partout en France, et notamment à Château-Gontier. On entendra le mot d'ordre des organisateurs du collectif Sud Mayenne en transition. Ce dimanche également, c'est la journée de l'Europe. Quel intérêt, quelle importance? Réponse de Michel Ferron, le président de la Maison de l'Europe en Mayenne. Et puis en fin d'émission, la chronique service civique avec le portrait d'une animatrice d'un réseau de volontaires autour du numérique.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, la vaccination finalement ouverte à tous dès ce mercredi.
Toutes les personnes majeures pourront prendre rendez-vous si des doses de vaccin contre la Covid-19 sont disponibles la veille pour le lendemain, le tout pour éviter de gaspiller des doses. Il suffira de se rendre sur le site Doctolib dès le 12 mai. La vaccination sera aussi ouverte aux plus de 50 ans à partir de lundi. Rendez-vous possible dès aujourd'hui.
Covid-19, la tendance à la baisse se poursuit.
Dans la région, le taux d'incidence s'élève à 175,5 pour 100 000 habitants, bien moins que la semaine dernière. Le taux de positivité, lui, diminue aussi pour descendre à 5,8% en Mayenne. Mais l'impact sur les hospitalisations ne s'est pas encore fait sentir puisque 819 personnes sont toujours prises en charge à l'hôpital, dont 137 en réanimation.
Rouvrir des lits et embaucher du personnel pour éviter une quatrième vague.
C'est ce que demande le syndicat FO en Mayenne, alors qu'elle a été reçue avec d'autres syndicats par le préfet pour recueillir leur avis sur le calendrier de déconfinement. FO regrette que le président de la République décide tout seul et considère qu'il n'est pas de son rôle de se servir de caution à ce gouvernement. Mais rappelle, je cite, la responsabilité de l'État pour réouvrir des lits dans les hôpitaux, embaucher du personnel ou encore accélérer la vaccination réellement.
Christelle Morançais, candidate à sa réélection, à la région.
Oui, ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est désormais officiel. L'actuelle présidente de la région des Pays de la Loire est à nouveau candidate aux élections de juin prochain, sous l'étiquette Les Républicains, avec deux priorités affirmées dans l'interview donnée à nos confrères du Maine Libre, bâtir la région du plein emploi et soutenir une écologie qui embarque tout le monde, État, collectivités, associations et citoyens.
Laval et Changé deviennent labellisés vélo.
Un vélo pour Laval et même deux vélos pour Changé. Ce label créé cette année par les organisateurs du Tour de France valorise les communes qui sont engagées dans une dynamique positive de promotion de la pratique du vélo. Le nombre de vélos attribués évalue les conditions de cyclabilité et du volontarisme de la commune.
Des cérémonies commémoratives pas ouvertes au public.
Pour le 8 mai, demain, en mémoire de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale du 8 mai 45, une cérémonie est organisée en présence du préfet et d'associations d'anciens combattants à Laval, à 11h au Square Foch. À Château-Gontier, ce sera à 9h45 devant le Monument aux Morts. Ces deux cérémonies se feront à huis clos.
À la découverte des joyaux de la Mayenne.
On parle ici des châteaux et autres belles demeures du département. L'association 4 pas en Mayenne réunit 14 propriétaires de ces sites remarquables, châteaux, manoirs, moulins. Ces joyaux du patrimoine s'exposent en photo dès demain et jusqu'au 20 juin dans la cour du château de Sainte-Suzanne. L'exposition itinérante sera visible tout l'été dans les 14 joyaux de la Mayenne.
Et on lit la une du Haut-Anjou aujourd'hui, les lycéens contre le maintien du bac.
Ils ont manifesté un peu partout en France cette semaine pour que le bac soit attribué en contrôle continu. Et c'était le cas aussi ce mercredi à Segré dans le Maine-et-Loire, devant le lycée Bourchevreau-Sainte-Anne. Une centaine d'élèves s'est réunie pour dénoncer les inégalités face à l'organisation du bac avec la crise sanitaire. Dans leur viseur, un grand oral pour lequel ils n'ont pas été préparés, des épreuves maintenues en totalité pour les filières professionnelles et le maintien aussi du bac de français pour les premières. Ils n'excluent pas une prochaine mobilisation. À retrouver aussi dans votre journal l'ambition du club de football L'Ancienne de Château-Gontier. Sébastien Malcuit, un ancien joueur du club, y revient en tant que coordinateur pour faire le lien entre bureau, staff et joueurs. Et ce, alors que le club se fixe plusieurs objectifs sportifs d'ici 2025. la montée de l'équipe senior en National 3, les équipes féminines en régional, pardon, pour les seniors, mais aussi pour les jeunes qui devront être représentés à tous les niveaux régionaux. Manque plus que le public pour les encourager dans ce but. Apprendre à l'école dehors, au cœur de la nature, c'est la philosophie de l'association La Jardinière. Elle ouvre une école maternelle hors contrat à Bazougé à la rentrée 2021. Le principe, l'enfant est en contact direct avec la nature et une grande importance s'est accordée au corps, au mouvement, à la motricité, au jeu. Pour le moment, des chantiers participatifs aident la rénovation du bâtiment qui fera office de salle de classe lorsque les enfants ne seront pas dehors, c'est-à-dire assez rarement. Intéressés, des portes ouvertes ont lieu les 29 mai et 26 juin prochains.
Et Marie, une nouvelle marche pour le climat ce dimanche.
Mot d'ordre national avec un rendez-vous proposé à Laval à 10h30 Square de Boston avant de prendre son vélo vers midi pour se rendre sur le site de Coupeau à Saint-Berthevin avec notamment une intervention de Nicolas Sourdaine à l'origine de la pétition lancée sur le déboisement du site. À Château-Gontier aussi aura lieu une marche pour le climat ce dimanche, organisée à nouveau par le collectif Sud-Mayenne en transition qui espère éveiller les consciences, comme l'explique Thomas Leroyer, membre du collectif.
On met justement cette marche en place parce qu'on est déçu de la loi climat qui est en train de passer. Nous, ce qui nous a surpris vraiment du coup quand on a fait la marche la dernière fois, là, on s'est dit « tiens, on va rencontrer un député du secteur ». On a eu une réponse tellement plate et pas du tout engagée que du coup c'était ça qui nous a plus déçus en fait. Les 150 citoyens, là, les 70 propositions qu'ils ont faites, où on avait commencé à lire, et puis il y a plutôt des choses qui nous plaisaient, déçus par la prise de conscience que les députés n'ont pas. C'est pas la priorité du moment, sauf que tout est lié en fait. Tout est lié, et là il y a des écrits qui sont en train de sortir que du fait de la déforestation, les animaux, les virus y sortent, le permafrost qui dégèle dans le nord de la Russie, il y a des virus qui sortent, enfin du coup... L'urgence climatique, elle est là, le gaz à effet de serre, c'est en train de sortir tout ça, donc vraiment tout est lié, quoi. Depuis que j'ai des enfants, je pense, j'ai ma grande qui a 10 ans, là. Depuis 10 ans, du coup, on réfléchit un peu en couple, hein, tout simplement, à moins consommer, à manger local, à éducation des enfants. Plus ça va, plus je me dis que du coup, faut essayer de faire des choses pour moins qu'ils nous disputent dans 30 ans, quoi, du coup. Quand ils seront à ma place, là, du coup, quand ils auront des enfants, en se disant « Mais dans quel pays nous ont laissé réfléchir plus local ?» Et puis faire petit à petit en nous disant que ça viendra de nous, ça ne viendra pas de là-haut. Le collectif, bah, du coup, on est en train de travailler sur des déplacements doux, sur le château pouce, système d'autostop dans la communauté de communes. On a déjà contacté des politiques, ça leur plaît apparemment, du coup c'est des bases qui sont jetées, hein. Et puis le déplacement doux, ben, il y a le vélo, il y a aussi des travaux qui sont en train de se faire avec des agriculteurs, du coup sur leur démarche peut-être un peu moins industrielle. Et puis après, ben, c'est consommer local, hein, de toute façon, de ne pas aller chercher son pain en voiture, y aller à pied, c'est des petites choses, mais je pense qu'on est tous capables de le faire.
D'autres exemples d'actions et différents échanges sont prévus sur le parcours pendant la marche. Rendez-vous fixé à 15h devant l'hôtel de ville de Château-Gontier dimanche. À noter aussi que le collectif devrait très bientôt se constituer en association. Dimanche, ce sera aussi la journée de l'Europe et on en parle dans 3 minutes juste après Voyou avec le morceau Les Loubards, les 3 Loubards.
Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons. Le premier sort et me parle un peu de la pluie qui nous visite. Le deuxième à son tour arrive et me demande une cigarette. Mais le troisième a dans la tête plus d'une emmerde que mes poches pourraient régler. Et sa gauche s'était lancée, oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loubard? J'en sais rien, c'est le jeu. Je vais pas raser les murs. Ils m'ont pris mes baskets, ma veste, mes cigarettes. Pendant que je restais sur place, sans un mot, sans un geste, et l'air désabusé. Jamais je n'avais fait tourner autant une scène en mon esprit. En la rejouant, me venant. obtenez quelques réponses bien senties que j'aurais pu lancer sans peur aux trois voleurs, quitte à se faire amocher. Autant dire ce que ça fait. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas raquer un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Si je sors bien les violons, ils vont me rendre mon blouson. Peut-être même mon téléphone, je récupère mes affaires et je leur file ma monnaie. Jamais je n'avais vu tomber autant de pluie de toute ma vie. D'un coup les rues se sont vidées, d'un coup la vie s'est arrêtée. Me voilà seul dans une ruelle et la pénombre cache trois drôles de garçons qui en veulent à mon blouson. Oh oh. Et paf sur le boulevard, la tête dans le brouillard. Pourquoi je parle au loupard, j'en sais rien, c'est le jeu, je vais pas raser les murs. Ils en veulent à mes baskets, ma veste et mes cigarettes. Je vais pas rester sur place sans un mot, sans un geste et l'air désabusé. T'as pas autre chose à faire que de voler mes affaires. Tu veux pas racket un mec qui a les moyens demain de tout se racheter. Sorti les violons, ils m'ont rendu mon blouson. Et même mon téléphone, j'avais toutes mes affaires, je leur ai filé ma monnaie.
Voyou avec les trois loupards, hein. J'avais un petit peu écorché le titre avant de lancer la musique, c'était bien les trois loupards de Voyou dans la JT du local. J-2 avant la journée de l'Europe, 71 ans après la déclaration de Robert Schuman, le 9 mai reste la journée dédiée à l'Union Européenne. Une entité parfois lointaine de nous, c'est la mission de la Maison de l'Europe d'expliquer les compétences européennes et leur incidence sur notre quotidien. L'occasion d'interroger justement Michel Ferron, le président de la Maison de l'Europe en Mayenne, avec une première question. À quoi peut bien servir cette journée de l'Europe ?
Ça permet chaque année de mettre le projecteur sur la construction européenne et je crois que cette fête a été instituée dans tous les pays de l'Union européenne, donc le même jour, pour que il y ait cette célébration, enfin cette commémoration, et cette date a été choisie parce que c'est justement la date à laquelle Robert Schuman, il y a maintenant 71 ans, a fait cette déclaration que l'on considère comme fondatrice de l'Europe.
Comment est-ce que vous avez prévu cette année justement de fêter cette journée, ou en tout cas de mettre l'accent dessus ?
Alors chaque année, on prévoit des festivités qui permettent de rassembler les gens sur ce sujet. Et on avait, pour les 70 ans, donc l'an dernier, conçu un vaste projet qui a connu le sort de toutes les manifestations touchées par la crise sanitaire. Il s'agit toujours, car c'est différé, d'organiser une randonnée collective le long des 70 kilomètres du chemin de halage de la Mayenne. Donc manifestation symbolique, qui devait se terminer par un rassemblement festif au soir de Boston. C'était prévu pour le dimanche 9 mai, l'an dernier, reporté cette année et à nouveau différé, et qui est actuellement en cours de recadrage pour éventuellement la mi-juillet dans un autre lieu, mais ce n'est pas encore défini.
Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient prévues ? On sait que sur le chemin de halage, il y a eu tous ces panneaux, justement, d'exposition.
Alors, sur cette randonnée, pour accompagner cette randonnée de façon pédagogique à l'attention des Mayennais, et en partenariat avec le conseil départemental qui a permis l'installation de ces panneaux, on a conçu donc une exposition sur place, qui est déjà installée, donc qui a connu un mauvais sort pour une partie taguée par un europhobe anonyme. Et sur ces panneaux donc sont reportées les dates principales de la construction européenne, avec surtout des exemples concrets de financement européens sur des réalisations mayonnaises qui ont été donc financées par les fonds de l'Europe.
Est-ce qu'on peut justement en citer quelques-uns ?
Alors d'abord, cette exposition, elle sera, nos panneaux d'abord ont été nettoyés, donc sont toujours en bon état, et elle sera disponible pour les gens jusqu'à la fin de l'été. Alors de mémoire, l'Europe s'est investie dans le département de la Mayenne comme dans d'autres départements de la région, car les fonds sont redistribués par le conseil régional dans des actions surtout environnementales. Et pour ce qui est de la communauté de communes autour de Laval agglomération, on peut déjà citer par exemple la mise en place d'une coulée verte autour de Louvernay, qui a été financée donc en partie par l'Europe. Des aménagements également piétonniers et aussi des aménagements de voiries dans certains centres-bourgs. Des chauffages collectifs à combustion de bois. Enfin, disons des choses assez innovantes. Bien évidemment, il y a le financement par la PAC des agriculteurs et il y a un chiffre, malheureusement, que je n'ai pas ici de façon très nette, sur l'aide apportée par l'Europe aux agriculteurs qui est très conséquent puisque la politique agricole communautaire est le plus gros budget de l'Europe tout entière.
Et justement, c'est important de rappeler ces exemples parce qu'on peut avoir parfois l'impression que l'Europe, c'est loin, vraiment pas que géographiquement, mais que c'est vraiment une grosse entité,
oui, tout à fait.
Et que ça n'a pas d'incidence sur le quotidien.
Voilà. Et c'est pour combattre cet éloignement dans l'esprit des gens des structures européennes qui, c'est vrai, apparaissent toujours bien compliquées et lointaines qu'on travaille, nous, inlassablement à démontrer que l'Europe, c'est aussi de la proximité et que l'Europe a un impact dans la vie quotidienne des citoyens.
C'est d'ailleurs la mission principale, j'imagine, de la Maison de l'Europe ici en Mayenne. Elle a été créée, je crois, il y a déjà plus de 26 ans. 26 ans,
oui.
C'est ça. Et
oui.
Donc vraiment, les missions principales, c'est justement faire de la pédagogie par rapport à ça. Quelles sont les principales missions ?
Alors, la fonction centrale, donc, c'est effectivement de promouvoir l'esprit européen, l'idéal européen et... On le fait donc à travers ces illustrations de la présence de l'Europe dans le département, mais on a aussi tout un travail d'accueil. On a un fonds documentaire sur tous les pays d'Europe dans nos locaux, où on accueille du public, enfin quand on peut les accueillir, puisqu'en ce moment nos locaux sont fermés. On participe aussi avec nos salariés à l'accueil des jeunes sur la mobilité, pour les conduire sur leur projet Erasmus. On participe aussi à l'envoi de jeunes volontaires européens dans les pays d'Europe pour des missions, disons, d'aide à des associations. On accueille par exemple, nous, cette année, 3 jeunes étrangères, une néerlandaise, une allemande et une irlandaise, qui sont en quelque sorte les ambassadrices de l'Europe. On organise aussi des conférences, débats sur des thématiques en rapport avec les priorités de la nouvelle Commission européenne, c'est-à-dire le fameux Green Deal, donc l'option prise par l'Europe sur le changement climatique, sur le numérique aussi. Et donc on organise des débats parfois contradictoires, notamment on l'a fait à propos du Brexit il y a quelques années. Et puis enfin, on organise aussi, et c'est une fonction qui nous rend très présents dans le public mayennais, des cours de langue qui sont proposés surtout à des adultes en cours du soir, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien, et qui sont assurés par des locuteurs natifs et qui adaptent leur pédagogie donc à ce public.
Donc c'est vrai que ça fait un panel d'action assez large. Avec la crise sanitaire, vous avez pu maintenir, donc forcément l'accueil du public c'est compliqué. Est-ce que le reste de vos actions a pu quand même se déployer, même sous une autre forme ?
Eh bien parce qu'on s'est attelé, comme dans toutes les associations, à maintenir le lien avec nos partenaires et le public grâce eh bien, à tous ces outils qui font florès en ce moment, que sont les visioconférences, le travail distanciel, et le télétravail pour nos salariés. Et globalement, je crois qu'on a réussi à assurer l'essentiel. Et qui plus est, surtout c'est très important, Nos réunions statutaires se sont tenues régulièrement, donc par Zoom, notamment nos AG, nos CA, nos bureaux, donc la vie associative n'est pas rompue.
Effectivement, l'Europe s'est aussi prononcée d'une seule voix, en tout cas, c'était peut-être pas attendu à ce niveau-là, par rapport à un plan de relance, ça aussi c'est important dans la situation actuelle.
Tout à fait. Ça a été d'ailleurs très très compliqué à débattre au départ, parce qu'il y avait des oppositions, et c'est normal, à 27, il y a des sensibilités différentes, mais ça c'est le jeu de la collectivité. Et l'Europe a quand même réussi donc à mettre en place un plan de relance en faveur des pays défavorisés, qui a été salué et qui a été efficace, et qui a démontré que l'Europe avait su prendre les bonnes décisions.
Vous parliez justement alors du Brexit tout à l'heure, avec forcément un débat contradictoire. Le fait que aussi l'exposition a été taguée, donc avec différents messages. Forcément, j'imagine que vous les entendez, ces critiques autour de l'Europe au quotidien.
Ah mais totalement. Non seulement on les entend, mais on participe, je dirais, nous-mêmes à un débat très exigeant et sans concession sur ces questions. Et c'est pas tant les objections qu'on a retrouvées sur les panneaux qui sont méprisables, parce qu'elles sont respectables. Elles font partie du courant europhobe traditionnel, mais c'est la manière un peu lâche, anonyme, qui a été utilisée pour les exprimer. Parce que nous, on n'est pas des eurobéas, comme on dit. Hein. On est parfaitement conscient que l'Europe est loin d'être parfaite. Et dans toutes nos réunions, on accepte la discussion très large sur le Brexit, sur l'Europe sociale. On a eu des débats très 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 contradictoires, et y compris d'ailleurs sur votre antenne, qui, ont contribué à faire avancer les choses. Les citoyens ont une excuse de mal comprendre, parce que c'est vrai que, vu d'ici, le fonctionnement à Bruxelles ou à Strasbourg, c'est quand même pas simple. Les institutions sont d'une très grande complexité. Le fonctionnement également de la gouvernance est pas clair. Et nous, on est un peu sollicités, et on ne fuit pas cette responsabilité pour décoder, simplifier et vulgariser le fonctionnement de l'Europe.
C'est le cas aussi, j'imagine, dans les établissements scolaires.
On a un volet d'animation scolaire très très important, qui commence dans les écoles primaires, car nous avons des salariés qui régulièrement vont faire des animations dans les classes du primaire, mais aussi après dans les collèges et dans les lycées, grâce notamment avec l'appui de nos jeunes volontaires européennes étrangères, qui sont extrêmement efficaces pour trouver le langage et parler aux jeunes. Et en effet, on développe cette activité de manière régulière. Ces jeunes, c'est souvent des jeunes filles, ont des parcours extrêmement attirants pour nos petits Mayennais, hein, qui voient débarquer dans leur classe des jeunes qui ont déjà un parcours de mobilité assez impressionnant, et qui savent, parce que je crois que pour les jeunes, l'Europe est plus facile à expliquer, à vivre, que pour les générations plus anciennes. En effet, on s'en sert beaucoup.
Forcément, on l'a compris, la randonnée ne pourra pas avoir lieu malheureusement ce dimanche, forcément à cause des conditions sanitaires, mais peut-être au mois de juillet, voilà. Affaire à suivre. Est-ce que vous allez quand même marquer le coup d'une manière ou d'une autre ce dimanche ?
Oui, tout à fait. Enfin, ce dimanche-là, pas forcément dans le déroulement de la journée, mais on va être très présent grâce à une campagne d'information sur les réseaux sociaux. La déclaration Schuman a été enregistrée sur YouTube et est disponible sur nos réseaux. Un discours de Victor Hugo a été enregistré. On a envoyé des tribunes à la presse et à d'autres radios. Bref, on occupe en quelque sorte le terrain pour être présent à cette date.
Et vous pourrez aussi retrouver sur la page Facebook de la Maison de l'Europe en Mayenne un jeu concours pour gagner votre petit lot européen. Attention, il ne reste que quelques jours. On revient juste après une petite pause musicale assurée par Radio Citizen avec Summer Days.
Summer days are filled with rain, and no clouds just won't stop crying.
Summer Days de Radio Citizen dans l'agité du local. Summer Days, évidemment les jours d'été bientôt. Mais en attendant, ça ne nous empêche pas de profiter de la chronique service civique comme tous les vendredis. Elle nous vient aujourd'hui du Maine-et-Loire, chez Radio G. Portrait de Lucie Baptiste, qui anime un réseau de volontaires en service civique en mission dans différentes structures, mais qui ont en commun l'utilisation du numérique. L'objectif, c'est de combler l'écart éventuel entre les attentes d'une structure et les capacités réelles du jeune.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission ? Et quel constat du côté des structures accueillantes ? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Lucie Baptiste anime en Maine-et-Loire un réseau de volontaires en service civique effectuant leurs missions dans différentes structures, mais partageant un même aspect, l'utilisation du numérique.
Quel but il a ce réseau ? Il a le but de réunir les jeunes volontaires en service civique dans les structures de l'ensemble du département du Maine-et-Loire. Ce qui caractérise l'ensemble des jeunes volontaires qui ont rejoint ce réseau sont vraiment sur des missions d'accompagnement aux usages, de médiation numérique. Et donc, il y a forcément en fait un lien avec le public à chaque fois et avec la philosophie d'essayer de rendre les gens autonomes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de missions qui sont proposées aux jeunes dans le cadre du service civique autour de la dimension numérique. On part du principe qu'ils sont à l'aise avec l'outil et en fait, ce qu'on attend d'eux souvent dans leur mission, enfin quand je dis « on », c'est les structures, ce qu'elles attendent en général des jeunes dans leur mission. Parfois, il peut y avoir un décalage entre les attentes des structures et réellement les jeunes, ce qu'ils sont en mesure de proposer.
Nathan fait partie de ce réseau animé par Lucie. Il est en service civique au sein de la maison de quartier Angers Centre Animation.
Alors j'ai plusieurs missions, j'ai l'aide au numérique.
Ouais.
Donc j'aide les personnes en difficulté au numérique pour différentes raisons, soit parce qu'ils connaissent vraiment pas beaucoup de choses en numérique, du coup j'essaye de les guider un peu. Ça peut être pour des aides administratives également.
Yacine aussi fait partie de ce réseau et effectue, lui, sa mission de service civique à la MSA. La Mutualité Sociale Agricole de Maine-et-Loire.
Moi, pour ma part, en fait, le plus important, c'est d'assister les différents adhérents qui ont des difficultés, notamment à utiliser les différents services Internet en rapport avec la MSA, et aussi de promouvoir, en fait, cet usage numérique auprès des adhérents. Donc, il y a une sorte de double mission.
Les jeunes vont apporter une touche numérique dans leur mission, mais ils vont se retrouver parfois aussi à faire de l'animation, parfois à faire du social, parfois à faire... de l'aide aux devoirs, etc. Et l'idée de ce réseau, c'est de leur apporter aussi de la bille, de la ressource pour leur pratique, quoi.
Yacine et Nathan s'accordent tous deux pour dire que les activités proposées par le réseau qu'anime Lucie leur a été profitable pour leurs missions respectives en service civique.
Moi, oui, parce que j'ai fait de l'animation en autonomie pour les personnes en difficulté avec le numérique. Ce qu'avant, je ne faisais pas. Je fais de l'aide aux devoirs, donc c'est la première fois en fait, que j'enseignais pour les enfants dans des écoles comment servir du numérique.
Pour ma part, en fait, tout simplement, c'est l'échange avec les différents volontaires, tout simplement, voir en quoi consiste en fait, leur mission, partager la mienne. Donc c'est vraiment axé en fait, sur le partage avec les différents volontaires.
C'est une phrase qui est bien connue, mais seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'idée c'est de proposer un espace justement d'échange, d'expression, de rencontre pour les jeunes. Et vraiment c'est ouvert à l'ensemble des structures du département, du Maine-et-Loire, qui proposent aux jeunes des missions en lien avec justement l'accompagnement aux usages numériques.
C'était Volontaire en service civique, un engagement, des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Une chronique service civique que vous pourrez donc réécouter comme toutes les autres sur notre site web l'autreradio.fr. Nous sommes vendredi et vendredi, en toute logique, c'est le 5e et dernier épisode de notre feuilleton au cœur du processus d'enregistrement d'un album, celui du chœur professionnel mayennais In Paradisum qui a répété et enregistré il y a quelques jours au Carré à Château-Gontier. Le chœur est composé d'une quinzaine de chanteurs dirigés par Désiré Panetier et accompagné sur ce projet par la soliste Amélie Raison. Ils sont accompagnés aussi par le technicien du son Thomas Ricou qui nous explique aujourd'hui les dernières étapes nécessaires avant d'avoir enfin l'album entre les mains.
Là, on enregistre tous les micros séparément. Donc, ça va être de revoir après en post-production avec Désiré, je pense, enfin, de retrouver les équilibres et surtout l'équilibre entre le son de proximité, donc les micros qui sont plus proches d'eux, et les micros plus d'ambiance de salle. Suivant les ambiances d'émotion des morceaux, on va vouloir un son plutôt proche ou d'autres plutôt lointains. Et ça, pareil, c'est quelque chose qu'on verra ensemble puisque c'est des choix artistiques en fait, et donc c'est clairement à eux de les prendre. Donc voilà, moi je suis force de proposition. En gros, c'est ils vont exprimer ce qu'ils veulent en émotion, et moi je vais mettre le côté technique pour exprimer ça. Il y a un vrai choix qui est fait déjà dès la prise de son, mais on a encore de la marge de manœuvre en post-production. En musique classique comme ça, l'idée étant d'être le plus entre guillemets réaliste possible. On va pas agir sur énormément de paramètres, contrairement à que ce soit en musique actuelle, ce genre de choses, où là vraiment l'idée n'est pas du tout de faire du naturel, c'est de faire un tableau complètement inventé. Là l'idée c'est de reproduire presque une photographie. Ce qui va vraiment être nécessaire au mixage, c'est plus retranscrire l'émotion par la profondeur de champ presque. En photo, voilà, est-ce qu'on veut un truc plutôt net avec un fond flou ou un fond net? C'est plus sur ces humeurs-là qu'on va agir, plus que vraiment sur le traitement du son.
Un projet comme ça, votre travail, il est moins long, moins important ou différent en fait?
Il est très différent puisque là, c'est sur ce type de projet, j'ai vraiment une application technique et effectivement, la part artistique, elle est complètement gérée par eux. A contrario, sur un projet que ce soit pop ou n'importe quoi en musique actuelle, il y a une part beaucoup plus importante d'implication dans l'arrangement, dans plein de choses. Là, c'est une part purement technique. Donc effectivement, la prise de son comme ça fait qu'au mixage, on passe beaucoup moins de temps que sur un projet de musique actuelle ou ce genre de choses. Là, effectivement, ça va être surtout de vérifier que tout est bien et puis de retranscrire. Ça va être vraiment des équilibres de micro, en fait, essentiellement, plus que du retraitement. Même avant toute cette période-là, la partie enregistrement était déjà quelque chose d'assez important dans mon activité. Donc là, elle se recentre d'autant plus du fait de ne pas avoir trop de live. Mais voilà, pour moi, les deux ont toujours été nécessaires. Donc pour l'instant, voilà, le fait d'avoir de l'activité en ce moment, c'est plutôt chouette.
Et oui, plutôt chouette de travailler sur ce CD qui sera disponible au mois de septembre. Pour les aider dans ce projet, vous pouvez encore contribuer à la cagnotte d'In Paradisum. Rendez-vous sur Hello Asso. C'est l'heure de la rubrique Initiative présentée par Claire. Et aujourd'hui, Claire, on participe à l'émission La France a un incroyable talent. Saison 16.
Alors, je ne sais pas quels seraient nos talents, Marie, mais peut-être qu'un de nos auditeurs a justement un talent caché. Eh bien, c'est le moment de le révéler pour cette émission de TF1. Il n'y a pas de limite d'âge. Toutes les disciplines sont possibles. Cirque, chant, magie, imitation, records mondiaux, sport, danse, tout est possible. En temps normal, la production de l'émission se déplace dans toute la France pour dénicher les talents. Cette année, ce sera par visioconférence. Le casting se fera le mercredi 26 mai. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail à casting@mindron, mindronproduction.fr ou appelez-le 02 51 57 03 04.
Des talents qu'on peut aussi offrir au Resto du Cœur.
À Villaine-la-Juhel, Janine et Gérard, deux bénévoles depuis 11 ans et retraités, cherchent leur successeur. L'association accueille 49 familles, soit 95 bénéficiaires, et permet un moment d'échange autour d'un repas, d'un café et des petits gâteaux. Les bénévoles devront être disponibles cet été, le jeudi uniquement, et le local sera fermé le mois d'août. Et pour cet hiver, le local nécessite une présence de 2h le mardi et 6h le jeudi. Si vous êtes disponible, n'hésitez pas à contacter le local au 02 43 03 41 28 et à vous y rendre directement. C'est au 5 rue de la Butte Rouge à Villaine-la-Juhel.
Merci beaucoup Claire pour ces deux initiatives. Si vous voulez renoter tous les numéros de téléphone qu'on vient de vous donner, n'hésitez pas à vous rendre directement sur notre site internet l'autreradio.fr. L'émission est comme d'habitude, comme tous les jours, en podcast cet après-midi. Vous pouvez aussi nous partager vos propres initiatives, vos propres messages sur notre répondeur en appelant le 09 70 40 59 40. Eh bien, c'est la fin de notre émission L'AGT du local de ce vendredi et de cette semaine. Merci Claire.
Et merci Marie, merci tout le monde. Et moi, je vous retrouve lundi et Marie, lundi prochain.
Petite semaine de vacances, effectivement. On se retrouve lundi prochain. Mais évidemment, à l'antenne, les émissions, elles, ne sont pas en vacances. À 20h, il y aura Passe-moi le thème, dédié aux titres de morceaux avec de drôles d'instruments de musique. Pas mal de surprises en perspective. Et puis, comme Claire l'a dit, si bien. C'est toi qui prends donc les manettes de l'émission ce lundi, ça va être super. Rendez-vous à 12h15 comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est la JT du local.